les vendredis matins, il est 7h30, c'est parti pour le journal. Élodie Largentan, bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. C'est mercredi prochain que Gaston Flosse sera fixé, qu'il saura s'il peut ou non s'inscrire sur les listes électorales et donc se présenter au territorial. La décision sera annoncée par la présidente du tribunal de première instance de Papeete. L'affaire Ravel-Le Gaillic, le parquet fait appel de l'ordonnance de renvoi. Ça concerne notamment le non-lieu prononcé au bénéfice du patron de Carrefour, Louis Van. Justice encore avec la condamnation de 3 hommes pour un nouveau trafic d'ice. Ils écopent de peine de prison ferme pour avoir acheté 98 grammes sur Internet et avoir revendu la drogue aux Fénois. Et puis lancement de la plateforme Initiative Polynésie, un réseau associatif de financement des créateurs d'entreprises. Ce n'est pas une structure de plus, assure le pays. Sa particularité, c'est que les porteurs de projets peuvent être parrainés par des chefs d'entreprise. On voit ça à la fin de ce journal.
Gaston Flosse pourra-t-il se présenter au territorial? Ça fait plusieurs mois que la question se pose et on approche d'une réponse.
La présidente du tribunal de première instance de Papeete a fixé au 24 janvier la date de son délibéré, c'est-à-dire mercredi prochain. Hier, Gaston Flosse et son avocat maître François Quinquis ont contesté devant le tribunal la décision de la commission administrative de la commune de Haroué qui avait refusé son inscription sur les listes électorales le 22 décembre dernier. Rappelons que le président du Taouéra a été condamné à 2 peines d'inéligibilité et la question c'est de savoir si la justice considère qu'il a purgé ces 2 peines en même temps et qu'il peut donc s'inscrire sur les listes ou bien que ces 2 peines doivent être purgées l'une après l'autre et dans ce cas il sera hors course jusqu'en juillet 2019. Pour maître Quinquis, le cumul d'infractions n'est pas applicable.
Le principe en droit français, c'est le principe du non-cumul des peines. De sorte que les 2 peines d'inéligibilité n'ont pas vocation à se cumuler successivement dans le temps. Il n'y a qu'une exception qui permettrait de le faire, c'est le cumul réel d'infraction. Mais encore, dans l'hypothèse où la peine d'inéligibilité accompagne une peine privative de liberté, ce qui n'est pas le cas d'espèce. Et de surcroît, nous ne sommes pas dans le cadre du cumul réel d'infraction, contrairement à ce qu'a annoncé, peut-être un peu rapidement, le procureur général pour votre presse, voici 1 an.
De son côté, Gaston Flosse est resté laconique, indiquant uniquement faire confiance en la justice.
Je fais confiance après les déclarations de maître Quinquis, qui, encore une fois, a été brillant, a bien vraiment étudié le dossier. Je ne peux que faire confiance dans la justice et dans le président du tribunal.
Des propos recueillis par Antoine Samoyot, la présidente du tribunal de première instance a donc fixé la date de son délibéré à mercredi prochain à 14h. Maître Quinquis a déjà annoncé qu'il formerait un pourvoi en cassation si sa demande n'était pas acceptée par le tribunal.
Et c'est une information Radio 1. Le procureur de la République, Hervé Leroy, fait appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendu par le juge d'instruction dans l'affaire Ravel-Le Gaillic.
Mercredi, le juge d'instruction a décidé de ne renvoyer qu'une partie de l'affaire devant le tribunal. Le patron de Petrocéan, Bill Ravel, et l'ancien secrétaire général de la CSIP, Cyril Le Gaillic, font tous deux l'objet d'un renvoi pour corruption active et passive. Mais un non-lieu a été prononcé au bénéfice du patron du groupe Carrefour, Louis Van. Et une disjonction, c'est-à-dire la poursuite de l'enquête, a été prononcée concernant le volet du financement politique de l'affaire impliquant Jean-Christophe Bouissou et James Salmon. Hier, le procureur de la République a donc fait appel de cette décision. Et c'est maintenant la chambre de l'instruction qui va devoir statuer. Ce sera fait dans les prochains mois.
Justice toujours. 3 hommes ont été jugés hier en comparution immédiate pour importation et vente de méthamphétamine.
Les 3 hommes avaient été interpellés la semaine dernière par les douaniers qui ont mis la main sur une lettre contenant de l'ice. La drogue était cachée entre les pages collées d'un magazine. Hier, l'audience a permis d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle affaire d'ice. Valentine Bluet.
Un petit génie de l'informatique âgé de 29 ans, Tevei Tapu, était à l'origine du trafic. Ce dernier avait réussi à commander plusieurs grammes d'ice via le Darknet en payant avec des bitcoins, une crypto-monnaie. En tout, 6 commandes avaient été passées. Une seule délivraison de 35 grammes n'est jamais arrivée puisqu'elle a été interceptée par les autorités néo-zélandaises. Ancien producteur de paca, Tevei commandait l'ice sur Internet en donnant un faux nom de livraison à DHL. Puis il confiait la drogue à son complice, John Tariu, qui se chargeait de la revente. Celui-ci fournissait les semi-grossistes du quartier Tavalaro Bordeaux de Faa. Le troisième homme poursuivi jeudi était arrivé un peu par hasard dans ce trafic. Consommateur de PACA régulier, il n'avait servi que de chauffeur seulement le jour de l'interpellation. Il espérait simplement récupérer l'argent que le vendeur lui devait. Le trafic a rapporté 3,2 millions de francs à l'importateur et 1 million de francs au vendeur. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné Teveil à 4 ans de prison ferme, dont 2 ans avec sursis. John a 3 ans de prison ferme, dont 1 an et demi avec sursis. Et le chauffeur a 1 an de sursis. Les deux trafiquants devront également s'acquitter solidairement de l'amende douanière de 7,8 millions de francs.
Direction Paris, où les députés ont voté la loi sur la sortie de l'indivision.
La loi prévoit qu'un notaire puisse procéder à la cession ou au partage des terres dès lors que 51% des indivis sont d'accord, alors qu'actuellement ils doivent tous être d'accord pour que la sortie de l'indivision puisse avoir lieu. Ce qui pose souvent problème, on le sait, surtout qu'en Polynésie, 50% des terres sont en situation d'indivision. Cette loi sur l'indivision a été soutenue à l'Assemblée par la députée Maïna Sage, qui a proposé 2 amendements spécifiques à la Polynésie, notamment sur l'omission d'un héritier qui fait l'objet d'une jurisprudence au Fénois. On écoute Maïna Sage.
Il faut bien évidemment protéger l'héritier qui pourrait avoir été omis dans le cadre d'un partage, mais nous souhaiterions que ces partages, comme ça souvent le cas en Polynésie, puissent ne pas être remis en question par l'héritier omis, donc qu'il puisse bien évidemment être destinataire de son héritage, soit en nature, soit en valeur, mais sans annulation du partage. Et ça, c'est un point qui est fondamental pour sécuriser d'ores et déjà une jurisprudence exercée en Polynésie, mais qui est souvent remis en question en cour de cassation. Cet amendement va véritablement sécuriser les décisions actuelles.
Et les 2 amendements de la députée polynésienne ont été adoptés. La proposition de loi a été votée.
La ministre des Outre-mer sera bientôt en Polynésie française. Annick Girardin arrive dimanche matin.
Et à la veille de sa venue, le Tavigny lance une pétition populaire pour exiger de l'État qu'il assume toutes les conséquences sanitaires, environnementales, culturelles, économiques et sociales de ses essais nucléaires sur notre Fénois.
Au chapitre économique, une nouvelle aide pour les entrepreneurs. La plateforme Initiative Polynésie vient de voir le jour.
Et elle va tenter de se faire une place aux côtés des autres dispositifs d'accompagnement aux entreprises. L'association intervient à 2 niveaux. Elle délivre des prêts à taux zéro et elle offre un suivi personnalisé avec la possibilité d'être parrainée par des chefs d'entreprise. Cette mise en réseau est la valeur ajoutée d'Initiative. C'est ce qu'explique le vice-président Tevaro Fritsch.
Quand je monte mon entreprise, j'ai mon idée, je monte mon entreprise, j'obtiens mes financements, ce qui est déjà un gros parcours. Après, je suis tout seul. Par quoi je commence? C'est quoi ma journée de demain? Quelle est ma priorité? Et comment je gère la confrontation de mon idée avec un marché, des clients? Est-ce que j'ai le bon prix? Comment je gère mes stocks? Enfin voilà, des choses qui sont irremplaçables et que seuls d'autres chefs d'entreprise peuvent partager avec vous. Et ben, c'est ce qui manquait, c'est ce que va apporter l'initiative.
La plateforme polynésienne peut déjà compter sur 20aine de parrains bénévoles, des chefs d'entreprise du secteur du tourisme, de l'assurance et du commerce. Être parrainé n'est pas systématique, le porteur de projet peut décliner l'offre. Le suivi de son projet est en revanche obligatoire, c'est ce que précise Vaïrea Logostersin, la directrice d'Initiative Polynésie.
Une plateforme initiative, elle n'a pas vocation à faire du prêt. Elle a vocation à assurer la pérennité des entreprises. Donc un porteur de projet qu'on suit, à qui l'on prête, c'est un porteur de projet qu'on va suivre pendant toute la durée de son prêt. Oui. Donc ça va être un suivi trimestriel, hein, voire moins espacé si on estime qu'il y a un besoin et que le porteur même parfois peut l'exprimer. Parce qu'on peut voir le suivi comme une contrainte, mais jusqu'à présent, les porteurs de projet l'ont pas du tout vu comme une contrainte, mais bien comme une aide. Parce que l'isolement dont on parle du chef d'entreprise, elle est réelle.
Et précisons que ce dispositif s'adresse principalement aux très petites entreprises, puisque le montant des prêts ne peut dépasser 2 millions de francs.
Et puis attention, on va remonter loin. Le niveau de la mer était plus élevé il y a 4000 ans en Polynésie.
Des chercheurs du CNRS et de l'université Aix-Marseille ont mené une étude sur les variations du niveau de la mer dans le Pacifique, et plus particulièrement en Polynésie française, étude qui porte sur les 6 derniers millénaires. Et ils observent donc que la mer est montée il y a 6000 ans. Le niveau a augmenté de plus de 90 cm pendant 2 millénaires pour atteindre son pic il y a 4000 ans. Depuis, le niveau est redescendu. Les chercheurs comptent à présent étudier des micro-atolls coralliens plus jeunes pour comprendre l'implication de l'homme, ce qui permettrait d'affiner les prévisions de montée des eaux.